Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui aux villes, au cœur du capitalisme, autour de deux livres, Géographie de la domination, capitalisme et production de l'espace, de David Harvey et paru aux éditions Amsterdam en 2018, et de Ville contestée pour une géographie critique de l'urbain, paru aux éditions Les Prairies ordinaires en 2014. Et pour parler de ces deux livres, nous sommes avec la préfacière de Géographie de la domination et la co-directrice de Ville contestée pour une géographie critique de l'urbain, Cécile Gentrac, qui est géographe et qui également milite contre l'urbanisme capitaliste et pour un urbanisme alternatif à Saint-Denis. Donc bonjour Cécile.
Bonjour.
On voulait faire cette émission déjà parce que d'en sortir du capitalisme, bon, c'est une question qu'on n'avait jamais abordée, la question des villes et de la géographie critique, alors que ça semble être un outil de compréhension essentiel aujourd'hui pour analyser les mutations urbaines du capitalisme. Et justement, et notamment en écho à l'actualité, alors on peut, il y a évidemment le projet du Grand Paris, mais il y a également la transformation de Marseille. Pourrait donner un aperçu un petit peu sur un cas précis de qu'est-ce que permet de comprendre la géographie critique.
Alors j'ai peut-être avant toute chose quand même reprécisé deux termes qui sont la géographie radicale et la géographie critique, parce que c'est deux termes qui sont souvent associés. Bon, il faut savoir que le terme de géographie radicale, il est né aux États-Unis à la fin des années 60 autour de la revue qui s'appelle Antipode, et qui est une revue de géographie radicale, et qui a très vite pris un tournant marxiste dans les années 70. Et puis progressivement, le terme de géographie radicale, donc étant associé au marxisme, il a fallu en fait trouver un autre terme pour associer les luttes féministes, postcoloniales, éventuellement aussi les sous-courants anarchistes qui existaient. Donc le terme de géographie critique permet d'envisager les choses dans leur pluralité. Donc ça, c'est deux choses. C'est pour ça que nous, on est parti sur l'idée de géographie critique, même s'il y a une place importante qui est faite à la géographie radicale et aux approches, on va dire, plus marxistes ou marxiennes de l'espace. Donc si on prend des cas concrets, évidemment, en fait, on le voit dans le cas de Marseille, autour des projets de métropolisation de Marseille, un peu à marche forcée. Il y a vraiment toute une série de discours, un discours sur la ville compétitive, sur la métropolisation, sur la nécessité de faire des grands projets, des projets emblématiques, un discours sur le renouvellement urbain qui serait nécessaire. Tout ça, c'est des termes, en fait, ou un discours qui peut faire figure de prêt-à-penser urbain, applicable à toutes les villes. Donc là, on se situe clairement dans cette dynamique. Évidemment, ça se fait dans une forme de violence vis-à-vis des populations qui sont sur place. Du coup, la première chose, c'est d'utiliser en fait les textes de géographie critique pour démonter ce prêt-à-penser urbain. Essayer de comprendre du coup quels sont les mécanismes à l'œuvre derrière, les tendances de fond liés au capitalisme, pour essayer de sortir de discours sur la ville durable, sur la ville compétitive, sur la ville inclusive, tous ces termes qui sont pris maintenant un peu partout. Voilà, donc dans le cas de Marseille, il est fortement emblématique parce qu'autour du réaménagement de la plaine et des effondrements des immeubles, on a à la fois le renouvellement urbain à marche forcée et en même temps la dégradation intense des quartiers populaires. Donc mis bout à bout, en fait, on peut utiliser la géographie critique et la géographie radicale pour y voir plus clair. Donc je pense par exemple, évidemment la question qui se pose c'est souvent celle de la gentrification, mais la gentrification en fait c'est pas simplement un phénomène culturel où on trouve des cafés tendance ou des magasins bobos, enfin ça c'est on va dire la surface. Le vrai fondement de cette gentrification, c'est ce que montre Nell Smith, qui est un géographe radical américain qui a beaucoup travaillé sur la gentrification, c'est que le nerf de la guerre c'est le différentiel de rente foncière. Le différentiel de rente foncière, c'est l'idée de trouver une plus-value dans l'espace. Et ça, quand un quartier est bien placé et central, il y a toujours moyen de faire une plus-value à condition d'attendre assez longtemps pour que le bâti se dévalorise nettement. Je pense qu'il y avait une citation qui était très intéressante, qu'on peut donner rapidement pour essayer de comprendre de quoi il retourne. La dévalorisation conduit à la détérioration physique, qui entraîne à son tour une baisse du prix du marché du terrain occupé par le bâtiment dégradé. Quand et seulement quand le différentiel entre la rente foncière effective et la rente foncière possible devient assez important, alors il devient profitable de redévelopper le terrain et de le réhabiliter pour lui donner un nouvel usage, et le capital se remet à affluer sur le marché du centre-ville. Voilà, c'est typiquement un peu ce qu'on a vu dans la rue d'Aubagne à Marseille. Le mécanisme de gentrification, ce n'est pas le café latte ou ce n'est pas uniquement le magasin de fringues bobo. C'est vraiment la surface, c'est quand même des mécanismes profonds de diffusion du capitalisme. Il faut savoir que Nell Smith, c'est un ancien étudiant de David Harvey, et donc il a fait ses armes justement dans la géographie du capitalisme.
Oui, et d'ailleurs c'est très intéressant cette théorie de Nell Smith, parce que en fait ça permettait d'expliquer, notamment dans le contexte américain, pourquoi est-ce que finalement des centres-villes qui avaient été un peu abandonné finalement aux classes populaires, qui n'avaient pas connu de développement urbain, en étroit lien avec donc le développement des banlieues résidentielles fondées sur la voiture, la petite maison pavillonnaire pour les classes moyennes blanches. Comment est-ce que finalement, à un moment, ces centres-villes avaient été devenus des opportunités de profit? Et c'est effectivement comme il l'explique très bien. Parce que justement, en fait, c'était des terrains qui étaient devenus très peu chers, puisque le bâti avait été laissé à l'abandon pendant des décennies. Et par contre, du fait de la restructuration capitaliste, notamment à partir des années 70, il y avait un potentiel de valorisation foncière énorme.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, on n'est pas du tout dans le cas américain, où effectivement, les centres-villes ont été complètement dévalorisés. Quoique, il y a quand même des cas en France, par exemple, qui sont similaires. Effectivement, les villes méditerranéennes, à l'exception peut-être de Montpellier, mais elles ont connu une très forte périurbanisation. Nous, on n'appelle pas suburbanisation, mais on va dire périurbanisation. Et du coup, les centres-villes sont parfois à l'abandon. C'est le cas à Béziers, c'est le cas effectivement à Marseille, dans une certaine mesure. Donc, il y a cette nécessité de réinvestir dans le centre-ville pour les métropoles et dans le cadre de la métropolisation. Et puis, Ce qui se dessine, en fait, par exemple, en Île-de-France, c'est pas tant le centre-ville pur parisien, mais c'est les banlieues rouges, en fait. C'est les anciennes zones industrielles. Bon, je prends le cas de Saint-Denis, que je connais bien. C'est vrai que tous ces espaces qui ont été abandonnés, où le terrain coûte extrêmement peu cher, mais dans une proximité quasi immédiate du centre-ville, c'est évidemment d'immenses potentialités de profit, en fait. Et on le voit, alors là, c'est pas du tout terminé, parce qu'effectivement, avec le Grand Paris, les gares du Grand Paris, moi, ce qui me concerne plus directement, les Jeux Olympiques, l'arrivée des Jeux Olympiques et des méga événements, on a effectivement des terrains qui peuvent offrir un différentiel de rente foncière assez considérable. Donc ça, c'est des processus qui se voient aujourd'hui. Alors, à condition, évidemment, à condition qu'il y ait un investissement de départ. C'est-à-dire que pour arriver à cette rente de profit, généralement, il faut un investissement concret, du solide, on va dire, que ce soit des transports, évidemment, des grosses infrastructures. Et alors là, c'est là qu'on peut revenir indirectement à David Harvey. Hein. Ce qui a occupé beaucoup du travail de David Harvey, c'est de définir ce qu'il appelle le special fix, c'est en fait comment, pour qu'il y ait mobilité du capital, il faut qu'il y ait un ancrage concret. Alors il prend l'exemple des aéroports, en fait, pour que des avions volent dans le monde entier, en fait, il faut quand même un aéroport. Et l'aéroport, généralement, il n'est pas financé par le privé, il est financé par le public. Donc en fait, il y a une sorte d'investissement public pour que le capital circule. Ça, c'est le cœur du Special Fix, de ce que montre David Harvey. C'est assez, et c'est assez passionnant, parce que ça permet de comprendre pourquoi des quartiers peuvent être réévalués. Et généralement, il faut un fort investissement public.
Et c'est par exemple le cas en Seine-Saint-Denis, puisqu'on a le cas de Saint-Denis ça va être les Jeux Olympiques, en fait, qui vont être l'opportunité, en fait, pour réaliser cette rente différentielle qui promet d'être assez importante. Et en même temps, on voit ça aussi dans une moindre mesure à Saint-Ouen, où justement, là, il y a une création de transport, puisqu'il y aura la ligne 14 qui va aller jusqu'à la mairie de Saint-Ouen. Il y a aussi le conseil régional d'Île-de-France qui s'est mis à Saint-Ouen. Et donc, tous les ingrédients, finalement, sont prêts pour que le bâti immobilier à Saint-Ouen, qui est quand même qui est peu cher alors que c'est aux portes de Paris, pour une opportunité de rente, enfin de plus-value immobilière très importante. Et finalement, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, la théorie de Neil Smith sur la gentrification, parce que d'habitude, on voit ça quasiment comme une espèce de développement, de transfert d'une population à une autre, où finalement, les bobos vont trouver un quartier joli et vont se dire « tiens, on va y aller ». Et puis, petit à petit, naturellement, les loyers vont un peu augmenter et la population des classes ouvrières va partir. Ce qui est évidemment un des aspects des choses, une espèce de lutte de classe urbaine pour l'occupation pour le droit à la vie d'une certaine manière. Mais en même temps, il y a des logiques capitalistes beaucoup plus fondamentales derrière qui sont intéressantes à analyser. Et par rapport à ça, on a évoqué notamment David Harvey, mais on pourrait remonter finalement jusqu'à un peu au fondateur de toute cette géographie critique, qui est Henri Lefebvre, qui précisément, avec son livre Le droit à la ville, avait un peu fondé, ou disons avait été un texte très important, disons, de ce courant, et qui aujourd'hui, ce concept de droit à la ville est remobilisé dans un contexte où précisément les classes populaires sont poussées hors des villes, même dans les dernières villes comme Marseille, où elles avaient encore un ancrage dans les centres-villes très important.
Oui, alors le droit à la ville, c'est vraiment fondamental. Alors c'est fondamental en termes épistémologiques, c'est-à-dire qu'en fait, Henri Lefebvre, il est incontournable, y compris dans la géographie critique et radicale anglophone. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas un colloque sans une mention d'Henri Lefebvre et du droit à la ville. C'est quasiment incontournable. C'est d'autant plus étonnant qu'en France, il avait un peu disparu de la circulation. Mais c'est vrai que le droit à la ville, quand on le relit, il a un caractère assez visionnaire, en fait. Il y a vraiment des moments où il annonce la métropolisation, où il annonce la compétition interurbaine. Alors, il parle de Nouvelle Athènes, par exemple, mais pour montrer qu'il y a à la fois des serfs et des citoyens libres. Alors là, on pourrait appeler ça la bourgeoisie, mais il a vraiment une vision extrêmement visionnaire. Donc le relire, c'est toujours intéressant. Alors il y a toute une partie de droit à la ville qui est quand même un peu difficile à aborder, mais il y a par moments vraiment des éclairs de lucidité par rapport à l'évolution de l'urbain dans le monde. Et c'est vrai que le droit à la ville, qui part de toute façon d'une théorie tout à fait marxienne, c'est la différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, c'est-à-dire que la ville a une valeur d'usage, elle est nécessaire parce que c'est l'espace de la ville, c'est quand même un espace fascinant de rencontres, cette anonymisation permet quand même beaucoup de choses en fait, ça permet de sortir de sa classe sociale d'une certaine manière, en tout cas c'est des trajectoires sociales qui sont prédéterminées. Donc la ville en soi, elle a une valeur d'usage énorme, y compris alors ce qui paraît le plus représentatif de ça, c'est sans doute peut-être dans une certaine mesure la ville médiévale, quand on y avait accès. Quand on n'était pas hors de la ville. Et puis, avec l'industrialisation de la ville, ce que montre Henri Lefebvre, c'est que progressivement, il y a une mise à distance en fait, des populations, qu'il y a forcément des zones industrielles, il y a des zones de résidentielles pour les ouvriers. Et dans une dernière étape, en fait, qui est celle vraiment de la ville capitaliste actuelle, on a même une très forte sectorisation, un très fort zonage, c'est la théorie du zoning, surtout à partir des Trente Glorieuses, où on a construit ces fameux quartiers quartiers, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les cités, mais enfin les grands ensembles, hein, pour loger massivement, et puis pour loger massivement loin de la ville. Et donc, en fait, on a des villes, des vies, pour le coup, qui sont consacrées, en fait, à faire notamment du transport, ce qu'on peut observer, évidemment, à l'heure actuelle, et des vies qui sont complètement... Enfin, tout ce qui faisait la teneur de la ville disparaît complètement. Tous ces espaces de rencontre se sont fortement organisés, en fait, ou détourné pour en fait la production capitaliste. Donc la ville perd tout à fait son intérêt. Alors le droit à la ville, en fait, selon Henri Lefebvre, hein, c'est pas le droit à l'accès aux services de la ville, par exemple, c'est pas avoir accès au transport, même si finalement c'est pas quand même complètement inintéressant quand on voit les débats actuels. Ça, c'est la version, on va dire, minimaliste du droit à la ville qui a été très récupérée, hein, c'est-à-dire avoir accès au centre-ville, etc., etc. Mais la vraie vision d'Henri Lefebvre, elle est tout à fait libertaire, elle est celle de l'auto-organisation. Et à un moment donné, il dit que la participation, la vraie participation, elle a un nom, elle s'appelle l'auto-organisation, en fait. Ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est une version très, très édulcorée de ce que peut être l'auto-organisation. Bon, cela dit, bon, ça, c'est un peu un point de débat, mais c'est vrai que le droit à la ville, on va dire minimaliste, n'est pas complètement inintéressant non plus, parce que quand il y a des gens, par exemple, en Amérique latine, qui ont pas accès ni à l'électricité, ni à l'eau, etc., le premier droit à la ville, cette revendication du droit à la ville-là, il n'est pas complètement à jeter avec l'eau du bain, parce que, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que il faudrait arriver à un droit à la ville, on va dire, supérieur, voilà.
Oui, c'est intéressant. On va pas trop en parler dans la deuxième partie, mais un des auteurs traduits dans Ville contestée, c'est Don Mitchell, et lui il parle, finalement il a une vision aussi assez minimaliste quand même de ce droit à la ville, et lui il parle du droit à l'espace public, notamment dans le cadre des politiques urbaines qui visent à vider les villes des SDF, à leur interdire de satisfaire leurs besoins élémentaux, etc. Après, je pense que c'est intéressant quand même ce concept de droit à la ville, aussi dans un contexte où finalement la ville en tant que telle a été très critiquée, notamment avec la critique écologiste à partir des années 1970, et où finalement ce qu'il y avait de positif pour des gens comme Henri Lefebvre, mais aussi pour Guy Debord ou aussi pour Marx, dans la ville a été un peu presque perdu de vue. Et par exemple, voilà, chez Debord, c'était vraiment l'idée de la rencontre, de situations inattendues, alors que dans la campagne, c'est moins propice évidemment à la rencontre. Il y avait aussi l'idée de la rencontre de la différence aussi, c'est que la ville permettait de mettre en lien des populations qui étaient très différentes. Et c'est vrai que les villes, c'est typiquement les endroits où... où naissent une espèce d'interculturalité, une transformation, une désidentification des individus par rapport à un terroir, par rapport à un territoire, etc. Presque, on pourrait dire que l'internationalisme, il a plus tendance à naître en ville que dans les campagnes. Et c'était... d'ailleurs, le livre le mentionne à un moment que, justement, Henri Lefebvre... qu'il trouvait de particulièrement important dans la ville, c'était l'idée que, pour citer Marx, que l'air de la ville rend libre, dans le sens où, comme tu l'as dit, il anonymise les normes sociales qui peuvent peser sur un tout petit milieu à la campagne sont moins fortes, et donc il y a des possibilités de trajectoires individuelles, existentielles, qui sont quand même démultipliées. C'est pour ça d'ailleurs que Marx et Engels, dans leur réflexion sur une société post-capitaliste, penser à une espèce de dépassement de cette dichotomie entre la ville et la campagne, parce qu'à la fois, ils voyaient tous les problèmes de la campagne en termes de promiscuité, de normes, de communautarisme, etc. Et en même temps, ils voyaient aussi les problèmes des villes, en termes notamment écologiques, du fait qu'il y avait des problèmes de métabolisme avec la nature, problème des déchets, le problème de... Et finalement, ce qu'ils pensaient, eux, c'était abolir cette distinction et opérer une espèce de déconcentration qui permettrait d'avoir un peu l'avantage des deux. Donc un peu une espèce de monde peuplé de multiples petites villes ou gros villages. Et d'autre part, dans le livre « Ville contestée », c'est aussi précisé. Finalement, ce livre « Le droit à la ville », il prépare un livre de Lefebvre qui est... qui est vraiment fondateur et qui est la production de l'espace et qui va être ensuite, enfin cette expression de production de l'espace va être ensuite reprise notamment par Harvey. Finalement, sa théorie, c'est quand même beaucoup une théorie de la production capitaliste de l'espace. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu de la production de l'espace et aussi de comment est-ce que Harvey va lui théoriser cette production de l'espace, surtout au niveau des villes?
Oui, bon, la production de l'espace, hein, c'est qu'effectivement, chaque société produit son, enfin, si pour faire très simple, chaque société produit son propre espace. Alors, je rentrerai pas dans les différentes conceptions de la production de l'espace chez Lefebvre, mais la société capitaliste, elle produit indéniablement un espace, dans la mesure où c'est ce qu'a montré Harvey très très bien, que pour une des conditions de réalisation du capitalisme et du profit, c'est l'expansion spatiale. Il y a plusieurs manières de voir les choses, il faut essayer de se représenter un peu les choses dans l'espace. Soit l'expansion spatiale, elle se fait sur des territoires, on va dire, non capitalistes. Donc ça, c'est un petit peu, à l'échelle mondiale, on va dire, là, une forme d'impérialisme qu'on voit toujours à l'heure. Mais ce que montre assez bien Harvey, c'est qu'en fait, cette expansion spatiale, elle peut se refaire sur un espace déjà produit, en fait. C'est une production incessante de paysages. Donc elle peut très bien se refaire sur des endroits hautement profitables, que sont par exemple les villes. Donc il y a un effet de, si je résume les choses dans une image que tout le monde comprendra, c'est l'idée de recyclage en fait. On peut recycler un espace déjà produit, c'est exactement le principe de la gentrification, c'est-à-dire que bon, tant qu'on a les conditions pour le recycler, c'est-à-dire à un moment donné une vraie dévalorisation, on peut refaire un profit sur de l'espace. Donc c'est une production permanente en fait d'espace et chaque société produit son espace. Elle peut aussi, cette production de l'espace, se faire dans l'exploitation des différences. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une production de l'espace qui serait une sorte de rouleau compresseur. Alors, souvent, ça a cette image quand même de rouleau compresseur. C'est-à-dire que de loin, on a l'impression que tout se fait de la même manière. Mais en fait, finalement, c'est un rouleau compresseur assez, assez malin, on va dire. C'est-à-dire qu'il exploite assez bien les différences, y compris des différences qui pourraient paraître a priori anticapitalistes, des différences multiculturelles, une tradition même. Dans la ville, une tradition anticapitaliste, ça peut même être valorisé. C'est un peu l'idée d'un article que j'aime beaucoup dans Géographie de la domination qui s'appelle L'art de la rente, où en fait l'espace peut produire des rentes de monopole. Alors Harvey prend l'exemple du vignoble. Effectivement, par exemple, avoir un vignoble, c'est pas du tout la même valeur évidemment qu'un terrain à côté. Et c'est vraiment parce que c'est à cet endroit précisément qu'on a une rente de monopole. C'est-à-dire qu'on tire beaucoup de profit de l'espace. Mais du coup, si par exemple je reviens à Marseille, finalement le quartier, la figure du quartier populaire, elle peut devenir un élément de rente de monopole. C'est-à-dire qu'en fait, on peut garder cette image de quartier populaire, de quartier même mobilisé, militant. Ça peut devenir être complètement récupéré dans l'image, dans une image de ville capitaliste classique, en fait.
Comme Naples, un petit peu aussi, où finalement une bonne partie du tourisme de Naples se base justement sur cette idée d'une ville populaire, mafieuse. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui est très intéressant dans la théorie de David Harvey et aussi d'ailleurs de Neil Smith, ça contredit un peu cette idée que finalement le capitalisme ne serait qu'une homogénéisation de l'espace et une uniformisation. C'est-à-dire que finalement le rouleau compresseur un peu de la mondialisation qui uniformiserait les espaces. Enfin, et c'est là où David Harvey parle justement de la nécessité d'avoir une approche un peu dialectique justement de ces phénomènes. C'est que cette uniformisation, elle est en tension avec en même temps une logique de différenciation qui est nécessaire au capitalisme. Parce que dans le cadre de la concurrence capitaliste, avoir, David Harvey, il parle de capital symbolique collectif, comme à l'échelle d'une ville, par exemple Paris, le fait que Paris soit Paris, ça lui donne un avantage compétitif pour tous les capitalistes industriels et fonciers notamment, ou du tourisme, par rapport à être Lille. Pourtant pas très loin et pourtant très bien situé, etc., etc. Mais juste, il y a une différence énorme et dont il parle dans son article.
Oui, parce qu'il y a une vraie valeur en fait symbolique des espaces qui peuvent être pleinement utilisés par le capitalisme. Bon, alors ce que dit Harvey, il essaye d'être positif, il dit qu'en fait, bon, ça donne aussi une sorte de marge de manœuvre, c'est-à-dire que le capitalisme est obligé de laisser une marge à la différence et une place à la différence pour pouvoir exister, c'est-à-dire pour créer des rentes de profit qui ne soient pas simplement une expansion spatiale en type rouleau compresseur. pour exploiter des différences, il faut laisser quand même une petite marge de manœuvre. Donc, en fait, l'idée de Darvet dans tout ça, c'est quand même d'essayer d'exploiter la marge de manœuvre, aussi faible soit-elle. Mais bon, évidemment, ça peut vouloir dire aussi qu'on peut être tout à fait récupéré ou qu'un mouvement populaire, en fait, peut être complètement vidé de sa substance dans une forme de Disneylandisation, en fait, du monde. C'est-à-dire que chaque espace aurait une sorte de valeur ou de symbolique intrinsèque qui pourrait être en quelque sorte vendue, avoir une valeur marchande. Et effectivement, la valeur d'usage, entre guillemets, qui est celle des relations sociales, peut devenir tout à fait une valeur d'échange sur un marché, notamment, effectivement, il faut bien le dire, du tourisme, qui est une des grandes tendances aussi actuelle, en fait, c'est que, compte tenu de l'émergence d'une classe moyenne mondialisée, on va dire, le tourisme est devenu vraiment une pratique de masse. Et puis, par ailleurs, aussi pour le marché immobilier, qui a tout intérêt à mettre en valeur ces différences-là. Donc, on le voit, effectivement, à Marseille, il y a cette image à la fois de ville populaire qui peut être reprise, et puis en même temps, quand on n'a plus besoin des classes populaires, on peut toujours passer à une phase numéro 2, qui est l'éviction des classes populaires, mais en garder quelques symboles. Voilà. On peut garder les symboles aussi, c'est pareil, à Saint-Denis, d'une ville ouvrière, et puis finalement, faire un urbanisme complètement aseptisé, en fait, parce qu'il y a une très forte, plus-value possible, en fait.
Oui, c'est pour ça que finalement, ce que dit Harvey, c'est une espèce de limite presque objective, disons, à cette tendance à l'uniformisation et à la transformation complètement capitaliste des villes. Mais c'est une limite qui est quand même, il prend l'exemple de Barcelone. Oui, certes, Barcelone ne peut pas complètement se transformer en un Disneyland, sinon elle cesse d'être Barcelone et elle devient une ville comme une autre. En fait, c'est ça. La limite objective, c'est que si une ville devient tellement semblable aux autres, tellement où finalement il n'y aurait plus que des McDonald's, des Disneyland, des choses comme ça, bah évidemment ça perd tout l'intérêt touristique, de ça. En même temps, il prend l'exemple à l'inverse de Berlin et de tentatives de rénovation un peu romantique ou néo-romantique de Berlin. En même temps, ces projets-là ne vont pas forcément non plus être tenus parce que si une ville devient tellement spécifique culturellement que les touristes ne peuvent pas en absorber les codes facilement, les touristes vont plus venir, en fait, si ça devient trop spécifique. Donc finalement, il y a une limite objective au développement du capitalisme et à sa tendance à l'uniformisation et à la Disneylandisation des villes. Mais bon, malgré tout, c'est quand même une limite objective assez restreinte, quoi.
Oui, on le voit bien, par exemple, à Berlin. Tout le terreau des squats se sont fait complètement récupérer. Par exemple, un quartier comme Prenzlauer Berg, qui était un quartier de vraiment militant de squats, maintenant c'est le fin du fin pour les touristes. Et Airbnb est passé par là. Alors, ce qu'on peut dire, après, il y a aussi des dynamiques à l'œuvre et des acteurs qui sont intéressants. Par exemple, Airbnb, c'est un des acteurs majeurs de ces transformations des villes. Donc là, c'est d'ailleurs les géographes critiques de Berlin, donc moi que j'ai un peu suivi, leur principale préoccupation, c'est ce qu'ils appellent la touristification de Berlin. C'est-à-dire que faire en sorte que des villes deviennent des terrains de jeu pour des touristes, bon, c'est un vrai problème. Et il y a ce côté aussi où la contre-culture... La contre-culture des squats, c'est aussi une contre-culture festive, ça peut être aussi une contre-culture musicale, culturelle, qui donne un attrait, on va dire, incroyable pour une certaine forme de tourisme. Donc là, on est au cœur de la contradiction. Et alors après, pour lutter contre ça, c'est difficile. Alors on peut partir sur une idée complètement libertaire, qui serait celle de il faut plus de squats, etc., etc. Bon, ce qui joue aussi, c'est quand même des formes de régulation, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même la législation du logement, la législation de la location. Et c'est vrai que ça, c'est des points sur lesquels il faut se battre, en fait. Parce qu'on peut considérer qu'il n'y a que... Là, je vais être un peu moins libertaire, peut-être, que la moyenne de nos auditeurs. Mais moi, il me semble que tout ce qui relève quand même de certaines formes de législation, ça a un rôle stratégique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait montré Anne Clerval dans son ouvrage sur la gentrification à Paris. C'est-à-dire que ce qui avait ralenti assez longtemps, en fait, la gentrification à Paris, d'une certaine manière, c'était l'accès au logement social.
Oui, et par rapport à ce que tu dis, d'ailleurs, c'est un des arguments du géographe libertaire qui est dans l'ouvrage, des Souza, qui montre l'importance des mouvements sociaux comme agents de l'urbanisme. Il prend l'exemple du mouvement des travailleurs sans toit et pas sans terre au Brésil, et aussi l'exemple de Porto Alegre, et il montre comment est-ce que ces mouvements sociaux, à la fois, ont quand même intérêt à voilà, effectivement avoir une place dans le processus législatif, parce que c'est ce qui va être le plus effectif pour contrer les visées du capital foncier, et en même temps, pas non plus trop se laisser prendre au jeu, toujours rester critique quand même par rapport à cette participation, sous peine en fait d'être récupéré, instrumentalisé, tout simplement devenir voilà, des agents en fait de la transformation capitaliste des villes, quoi.
Je crois que là, c'est un point, bon, c'est un point qui va nous emmener loin, mais c'est la question des stratégies à adopter, y compris des stratégies spatiales. Alors, c'est peut-être une réponse de Normand que je vais faire, mais d'une certaine manière, je trouve qu'avec le temps, en ayant milité aussi de mon côté, je pense que en fait, toutes les options sont bonnes à prendre. Et il faut, à mon avis, il faut les mener de front. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'ai dit aussi quand j'ai été à Marseille, dans le quartier de la Plaine, où on a eu une discussion sur les apports de la géographie critique. Mais ça, c'est plutôt un élément de considération un peu personnelle au regard du militantisme. Je crois qu'en fait, toutes les options sont bonnes à prendre. On ne sait pas laquelle va être la plus efficace au final, souvent. Et je crois qu'en fait, on peut avoir un versant assez dur, un versant, on va dire, légaliste, un versant même politique, voire électorale, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on est dans la perspective quand même des municipales 2020, qu'il y a beaucoup de courants municipalistes qui se dessinent. Alors moi, je suis pas forcément très, très partante pour ce genre de choses, mais cela dit, il est clair que la menace électorale, elle est forte, et qu'on peut obtenir, à mon avis, certaines choses, des abandons de projets, ça se fait, hein, techniquement. Que des recours vraiment, on va dire, juridiques, ça marche aussi par moment. Que des vrais mouvements sociaux ou des mouvements locaux ou des. En fait, tout ça peut fonctionner ensemble. Et je suis pas sûre qu'en fait, on ait la réponse a priori de la stratégie qui va être la plus payante. Et c'est souvent, j'ai l'impression, une sorte de cocktail de stratégie qui est susceptible de fonctionner. C'est-à-dire que ça peut, face aux autorités, c'est souvent ce qui fait peur. Alors nous, par exemple, quand j'en reviens au cas personnel enfin, au cas personnel et collectif, hein, une mobilisation contre les Jeux Olympiques, pour le moment, il n'y a pas vraiment, comme on a 6 ans de l'événement, on n'a pas la force pour faire une sorte de mobilisation générale de Saint-Denis contre un projet qui est dans 6 ans, qui sur le papier est extrêmement complexe. Donc pour le moment, on est un peu dans la guérilla technocratique et juridique et dans l'intimidation sur les réseaux sociaux, enfin l'intimidation, l'omniprésence sur les réseaux sociaux. C'est pas très satisfaisant, hein, comme manière de mobiliser les gens, mais en fait, il faut bien s'adapter, et en fait, à mon avis, toutes les stratégies sont bonnes à prendre, en fait. C'est ce que dit aussi David Harvey dans Géographie de la domination. Il s'interroge, en fait, en relisant le manifeste du Parti communiste, sur les manières en fait, les manières de se mobiliser. Et en fait, ce qu'il pointe bien, c'est que la bourgeoisie, on l'a vu, a une stratégie éminemment spatiale, hein. Elle se dirige là où il y a de la rente foncière, enfin de la rente foncière effective. Elle est capable tout à fait de jouer la concurrence et de diviser les classes entre elles et de se déplacer quand il y a un problème. En fait, elle utilise l'espace comme un outil de gouvernement, comme un outil de rentabilisation, de création de profit. En face, on a des mouvements qui sont pas toujours, qui utilisent pas l'espace pleinement, en fait. Alors ça nécessite, en fait, d'envisager différentes échelles, de s'adapter, en fait, de fonctionner en réseau. Tout ça, c'est des éléments, en fait, on peut pas forcément faire qu'une grève à l'usine actuellement ou qu'un mouvement social ultra localisé. Et puis là aussi, il y a des espaces qui sont plus ou moins propices. J'ai envie de dire que là, par exemple, une place comme la plage Jean Jaurès à Marseille, qu'on appelle la Plaine. C'est un lieu effectivement de mobilisation qui est énorme, parce qu'une place, on peut pas la supprimer, on peut pas la décaler, etc. Quand on a des ZAD, c'est un peu la même chose, en fait. C'est ancré localement, on peut se battre sur place, on peut se battre aussi dans d'autres lieux, dans des lieux symboliques, mais il faut encore qu'il y ait des mobilisations possibles. Enfin bref, il faut utiliser toutes les ressources de l'espace, que ce soit en termes de mobilisation, de changement d'échelle. En fait, il faut parfois jouer sur les oppositions entre acteurs qui sont nombreux. Enfin, on peut faire capoter un projet, par exemple, ou les faire reculer en jouant sur les concurrences d'acteurs, par exemple. C'est pas très sexy, hein, je veux dire, en termes de mobilisation, mais ça peut marcher, en fait. Donc voilà, toutes ces stratégies qui peuvent être à la fois spatiales et des stratégies d'échelle, elles me semblent intéressantes à explorer dans les mouvements.
Mais effectivement, c'est ce que De Souza aussi dit sur le Brésil, que finalement, ce qui a le mieux marché, c'est que les mouvements sociaux, s'ils sont simplement en opposition complète au processus législatif et qui ne jouent pas justement sur les concurrences d'acteurs et qui refusent toute forme de participation, du coup, ils en sont au pur rapport de force. Évidemment, en général, quand il y a l'État et le capital qui est contre un mouvement social, en général, c'est l'État et le capital qui gagnent. Par contre, s'ils arrivent en même temps que maintenir cette pression à faire des alliances très circonstancielles avec des partis progressistes, etc., etc., du moment qu'ils ne se font pas récupérer par ces partis progressistes, ou cooptés, c'est d'ailleurs, il fait une distinction, il dit qu'il faut surtout pas se faire coopter, mais très circonstanciellement coopérer éventuellement avec ce genre de force de gauche institutionnelle, etc. Là, ça marche effectivement mieux. Enfin, comme le capitalisme lui-même a des tensions spatiales, les mouvements sociaux, dans leur stratégie, on sent aussi en tension, pas être trop légaliste et étatiste, sinon, en fait, c'est la récupération et la neutralisation par la politique étatique. Et en même temps, pas trop de marginalisation, sinon, enfin, en tout cas, en l'absence d'une situation révolutionnaire, c'est l'impuissance, la marginalisation.
Oui, puis pour mobiliser largement aussi, il faut trouver aussi des arguments qui portent au-delà des courants militants, en fait. Si on veut rallier des gens, il faut avoir des arguments. Alors, c'est ce qu'ont bien fait, par exemple, ce que font bien à la Plaine. Hein. Par exemple, ils ont mis des tracts où il y a ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, par exemple. Et dans ce qu'on veut, il y a des vrais éléments de vie quotidienne, en fait. C'est pas simplement... En fait, on peut pas trop se positionner simplement en termes d'opposition aux forces capitalistes, etc. Les gens, ils ont envie de vivre, en fait. Et ils ont pas envie de vivre dans 50 ans, ils ont envie de vivre maintenant. Et ils veulent, effectivement, des espaces publics agréables, une qualité de vie. Enfin, ça, c'est quand même compréhensible. Moi, c'est ce que j'ai un peu observé dans ma pratique militante, mais je dis pas qu'on a des grands succès, hein, pour le moment. Mais à vrai dire, je trouve que autant le capitalisme, il pense souvent par stratégie, autant les mouvements sociaux, et ce que dit Harvey, il pense pas toujours en termes complètement stratégiques. Et la stratégie, à mon avis, c'est surtout une combinaison de stratégies, en fait. C'est pas une stratégie en particulier, c'est une combinaison de stratégies. En fait, on peut jouer sur des stratégies assez différenciées. Souffler le chaud, le froid, etc. Enfin, on n'est pas obligé de s'interdire au prétexte d'une sorte de pureté militante. Certaines stratégies, en fait, c'est celle qui va mieux le fonctionner, qui peut être intéressante à un moment T.
Oui, c'est comme dans le cadre de la lutte contre Notre-Dame-des-Landes. Et d'ailleurs, c'est là où tu parles de multiples stratégies, mais ces multiples stratégies, elles sont aussi permises parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Parce que, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, s'il y avait uniquement des citoyennistes avec une logique citoyenniste, l'aéroport, il se serait fait. Et s'il y avait uniquement des anarchistes, peut-être que l'aéroport se serait fait parce que, du coup, il y aurait eu un isolement beaucoup plus fort, moins de mobilisation. Une mobilisation, disons, beaucoup dans un... à une population beaucoup moins large, ils ont une opinion de la population locale plus hostile, etc., etc. Et finalement, c'est cette espèce de mélange un peu bigarré qui a permis, en tout cas, d'éviter la construction de l'aéroport.
C'est très difficile, après, pour les autorités de répondre à ça. C'est-à-dire que quand on a un mouvement et que, par exemple, il éventuellement fortement réprimé, si dedans on a des citoyens propres sur eux, j'ai envie de dire, ou si on a des gens qui sont connus... pour avoir toujours été jouer le jeu en gros de la démocratie classique, etc. C'est vrai que c'est perturbant, ils ont du mal à se situer, en fait. Finalement, brouiller certaines pistes, c'est pas inintéressant, parce que arriver à brouiller des pistes en termes militants, moi je trouve ça plus intéressant qu'une stratégie ultra claire qu'on a passé des heures à définir en réunion et dont on ne bouge pas, en fait. Je trouve que cette forme d'indécision, elle est pas inintéressante dans les questions de mobilisation.
Enfin, en tout cas, je pense que c'était bien pour conclure notre première partie. d'être parti de problèmes un peu concrets, d'avoir montré comment est-ce que la géographie critique peut permettre de penser ces problèmes concrets de restructuration capitaliste des villes aujourd'hui, et aussi d'offrir des perspectives aux militants et aux militantes qui nous écoutent. Et ce qu'on propose, c'est après une pause musicale, de faire une deuxième partie qui revienne un peu de manière plus approfondie sur la géographie critique comme théorie critique, dans ses différentes dimensions, les différents auteurs. Bon, on reviendra un petit peu sur David Harvey et puis aussi sur les différents courants qui sont présents dans le livre « Ville contestée pour une géographie critique de l'urbain » qu'on invite vraiment nos auditeurs et nos auditrices à lire. Et on en profite pour dire que l'autre co-directeur de cet ouvrage, donc Mathieu Giroux, est mort au Bataclan dans les attentats de novembre 2015 et que cette émission lui est dédiée.
M-A-R-S-E-I, 2-L-E est à la U. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. Q-N-Q-S-C-V à tous ces enfants de la rue. À nos rues incomptées, génération du crabu. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée. Pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refait à notre sud. Petit déliment, je longue peine, au gommette ou à l'une. Pour pas grand chose, dorénavant, on te fracture. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu. Où est passée la ville du bled? Pareil que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui souffre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Aux colons de la belle cité de Fossé, tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de MARSEI, 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien une. Chaque des cultures 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ce qui reste, esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système. Ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir? Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. Nos hommes n'étaient pas que livrés. La camaraderie, la vraie, la joie, y avait pas de carabine. Vers l'âge 16, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le chien. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavanent les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture.
Et avant la deuxième partie de l'émission, un bonus.
Parmi tous les courants de la géographie critique, il faut aussi prendre en compte les approches féministes et les approches de genre, bon, qui ne sont pas tout à fait équivalentes, hein, mais il y a vraiment eu une histoire de la géographie féministe qui s'est beaucoup intéressée notamment à la question du travail. C'est vrai que les femmes ont été surtout dans le cadre par exemple des États-Unis un peu exclus du monde du travail pendant un moment, et donc les géographes féministes sont beaucoup intéressés à la question du confinement spatial, c'est-à-dire que là, les femmes se déplaceraient moins que les hommes. Bon, alors là aussi ce que nous dit le texte de Mélissa Gilbert sur les travailleuses pauvres, qu'elles soient noires ou blanches, c'est qu'il y a des grandes variétés de situations. Effectivement, il y a des travailleuses pauvres qui se déplacent beaucoup, mais ça, il suffit de le regarder quand on prend le RER le matin, qui vont faire le ménage, par exemple. Et puis, il y a des travailleuses qui sont effectivement plus spatialement confinées pour des questions en fait, familiales. Mais en fait, finalement, c'est ce qu'on, c'est ce qu'il faut envisager comme des théories, l'apport des théories générales. L'idée de confinement spatial, elle est intéressante pour comprendre en fait ce que peut produire l'espace capitaliste pour les femmes, c'est-à-dire soit le fait de rester dans la sphère domestique, soit inversement d'être obligé de faire un travail, de faire beaucoup de transport pour se rendre sur des lieux de travail assez précaires. Cette dimension, en fait, elle ne doit pas être de l'ordre de la théorie ou de la loi spatiale, en fait. Elle doit être envisagée, dans toutes ses spécificités, c'est-à-dire que d'une ville à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un rapport racial à l'autre, en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes trajectoires. Et dans Mélissa Gilbert, elle s'est intéressée aux trajectoires des travailleuses pauvres, qu'elles soient blanches ou noires, dans une ville, en gros, à 60 km de Boston, qui s'appelle Worcester. En fait, elle se rend compte que effectivement, les femmes noires se déplacent encore moins que les femmes blanches. Alors, sur le principe, on peut se dire que c'est un très grand confinement spatial. Ce confinement spatial, en l'occurrence, il est lié à la très forte ségrégation sociale des femmes noires, parce que c'est une ville très ségrégée. Mais c'est aussi parce que, en fait, dans cet espace, l'espace n'est pas simplement une contrainte, il est toujours une ressource. Et que dans l'espace quotidien des femmes noires, il y a aussi des ressources, c'est-à-dire des amis qui vont aider à garder les enfants, quelqu'un qui va donner un tuyau pour avoir un logement. Enfin, tout ce qui fait que la vie quotidienne est supportable, en fait. Et donc, quand on dit que l'espace est simplement une contrainte ou qu'un quartier pauvre, par exemple, c'est uniquement de la contrainte, ou que des problèmes en réalité, c'est pas vrai, parce qu'il y a toutes les solidarités, il y a tous les réseaux de solidarité qui se jouent dans un quartier qu'on pourrait appeler défavorisé ou même ségrégué. En fait, il y a tout un tissu de relations sociales qui sont absolument nécessaires à la survie. Et donc, derrière les déplacements, en fait, on peut voir aussi les stratégies de survie. Et c'est ça que ça met en valeur, en fait, ces différences de déplacement. On n'a pas accès aux mêmes ressources quand on est une femme blanche, quand on est une femme noire, et quand on est un homme, et quand on est une femme. Et donc, les ressources varient, et on essaye de se débrouiller en fonction de ce qu'on a. Voilà. Donc, l'espace n'est pas simplement toujours une contrainte, il peut être vu comme une ressource. Et donc, il ne s'agit pas de briser, voilà, c'est très important, ça, de ne pas briser dans les quartiers populaires les espaces de solidarité. Et c'est ça que les gens cherchent dans les quartiers populaires, ce qui fait l'attrait aussi de certaines cités en France ou de certains quartiers même dégradés en France, c'est qu'il y a aussi du coup toute une vie sociale qui s'est mise en place et qui est une vie sociale de survie, mais aussi de solidarité, d'intenses interactions sociales.
Donc là, ça montre bien l'intérêt d'une théorie intersectionnelle, puisque là, on voit bien que le genre et la race fonctionnent de manière combinée, par exemple dans la question des déplacements. Et puis après, je pense que c'était un point aussi important sur la question de la gentilité, du fait que l'espace peut être aussi... alors bien sûr, il est une contrainte, il est une espèce de structure un peu lourde sur les individus, mais qu'en même temps, les individus peuvent y trouver des ressources. Alors après, évidemment, ces ressources, elles sont contraintes, elles sont limitées, etc. Mais qu'en tout cas, il faut essayer de trouver en tout cas des ressources dans l'espace.
En fait, on parlait de Lefebvre et de l'auto-organisation, hein, que le droit à la ville, c'était l'auto-organisation. En fait, on peut imaginer l'auto-organisation comme quelque chose d'absolument outil, qui serait en gros une structuration à l'échelle d'une ville ou à l'échelle même d'un quartier ou d'un squat, etc. Ça peut être aussi l'auto-organisation des formes d'auto-organisation. C'est-à-dire que les solidarités, c'est pas uniquement... On n'a pas besoin d'attendre une auto-organisation absolue pour faire de l'auto-organisation, quoi. On peut faire de l'auto-organisation au quotidien, une auto-organisation, on va dire, du quotidien. Et ça existe de tout temps, en fait. Sinon, on ne survivrait pas aux logiques du capitalisme telles qu'elles sont. Donc ça montre bien, en fait, dans cet article, que parfois, plus on est dominé, plus aussi on est amené à trouver des stratégies de survie et des stratégies de solidarité. Donc ça, c'est aussi intéressant dans l'étude de la ville.